que nous commencions. Baba. Je propose que nous commencions, si vous voulez un peu d'attention. Alors, bonjour à vous toutes et à vous tous. Cette journée d'hommage à René Barbier s'inscrit dans deux cadres. On peut le dire comme ça. Un cadre d'un séminaire qui a lieu depuis une dizaine d'années avec Frédéric Lherbet. Alors, on ne va pas faire des tours de table systématiques. Par contre, quand on va parler de quelqu'un ou quand vous allez parler, vous pourrez dire d'où vous parlez. Comme ça, ça donne un côté plus dynamique et tout ça. Donc, Frédéric Lherbet qui est... je suis désolé pour ceux qui connaissent tout ça, et pour les autres qui ne connaissent pas, qui est ma collègue qui est professeure de sciences de l'éducation à Pau, co-présidente de la FIRS avec Patrick Boumard, ici présent, mais qui va parler juste après, et qui est également, comment on appelle, directrice adjointe d'Experis, hein, c'est ça, du laboratoire Experis. Qui organise. Alors, c'est co-organisé avec l'UCP. Alors, qui veut dire, qui prend la parole juste pour dire pour l'UCP ? Eric ?
Ouais. On est une université populaire sur Paris. Et on travaille plutôt dans une logique... on essaye, là, depuis cette année, de mettre en place une logique de production et non pas de consommation. Ce qui est très dur, ça attire très peu de gens de produire des textes, de se former en se transformant. Et on a trois projets en cours. Il y en a un qui dure depuis quelques années avec les éditions d'Elga qui s'appelle les ateliers de la praxis. On en a un autre, c'est un projet qui démarre de recherche-action sur la condition humaine. Et le troisième axe qu'on vient de créer, c'est pour produire des textes, on a créé un collectif des apprenants producteurs. Donc on a créé le CAP de l'UCP.
Alors,
on est ouvert, on fonctionne vraiment dans l'esprit des universités populaires, à savoir si vous souhaitez que quelque chose se passe dans cette université, vous pouvez proposer le projet et voir comment on peut le mettre en œuvre.
Alors pourquoi l'UCP pour un hommage à René Barbier ? Parce que
René. Hein ? Ouais, René est présent, nous a soutenus dès le démarrage avec Christian.
Et, Christian Verrier, ici.
Fondateur de cette université coopérative de Paris, où il a animé un axe sur le thème de la sagesse. Et après, il a passé la main pour qu'on anime un axe sur le thème de l'éco-formation.
Donc il sera un des thèmes de l'après-midi. Et donc c'était logique. Oui, donc dès octobre, il avait été décidé de programmer cette journée d'hommage et de manière conjointe. Alors, il faut voir aussi que dans les hommages à René Barbier, ça intervient après Christian Verrier a organisé en janvier une soirée dans un. Et puis d'autres, hein, qui sont dont certains sont ici. Tu peux en dire deux mots de ce qui s'est passé je ne sais plus quelle date c'était, en janvier, enfin début janvier.
Ouais, c'est vers la mi-janvier. Ouais.
Mi-janvier, ouais.
Ben, qu'est-ce qui s'est passé enfin, qui était là d'ailleurs Voilà. Ouais. Ben, l'idée de cette soirée, ils me diront si je me trompe, hein, comme ça.
Ouais.
Ben, c'était de parvenir à l'université. premier objectif. Deuxième objectif, c'était de trouver un lieu sympa. Ben, c'était dans Paris parce que c'était plus simple, ça aurait pu être ailleurs. Et c'est une idée qu'on avait eue avec René en juillet l'année dernière, au cours d'un repas. C'était dit qu'on avait. Enfin, je crois qu'il en avait pas marre, lui, de donner des conférences. Mais moi, j'en avais marre. Je n'ai plus donné de conférences. On a fait une série à l'UCP l'année d'avant. 3-4 soirs, je ne sais plus. Quoi. Moi, j'en avais... Ah, pardon ?
3 soirs sur la philosophie.
Ouais, 3 soirs, voilà. Et moi, en fait, je ne tenais pas trop à recommencer. Alors, on pourrait faire quoi d'autre ? Puis on a eu l'idée, on va faire un truc dans un théâtre. Et ça ne s'est pas fait à la rentrée, puisque René est décédé. Mais j'avais gardé l'idée, je me suis dit, bon, bah, j'en ai plus deux, je suis tout seul, mais on va trouver du renfort, et puis on va quand même faire cette soirée dans un théâtre qu'on aurait dû faire. Et l'idée, ça a été de partir de textes, d'iconographie, de sons, en fait, qu'avait produit René. En fait, dans cette soirée, il n'y a rien eu. Nous, on était 10 à peu près, 10, 11, je ne sais plus, à monter la soirée. Ouais, une dizaine. On a pris des textes qui représentaient un peu, mais ça c'était involontaire, ça s'est trouvé comme ça, les centres d'intérêt multiples théoriques de René. On a ajouté à ça des poèmes, évidemment, quoi, puisque la recherche classique n'aimait plus trop ça du tout. Quoi. Pour lui, à la fin, il n'y avait plus que la poésie qui comptait, quoi, en réalité. Il disait quand même d'autres choses, mais c'était surtout la poésie qui valait. Donc, on a mis beaucoup de poèmes dans cette soirée-là, hein, qui ont été dit par les personnes qui étaient là. On a pris de l'iconographie sur le journal des chercheurs qu'il avait choisi lui-même depuis au moins une quinzaine d'années. Donc, on a été pioché là-dedans pour illustrer les poèmes, pour illustrer les textes un peu plus théoriques. Et on a essayé de donner à ça... un aspect pas trop théâtral quand même, mais un minimum, c'est-à-dire qu'avec des éclairages qui s'éteignent et qui s'allument en fonction des textes lus, voilà. C'était sans prétention, hein, c'était juste pour essayer de donner une parole, pas une parole, mais un vœu qu'on avait formulé ensemble. Et voilà. Donc alors, normalement ça a été filmé, enfin c'est pas normalement, ça a été filmé, puis ça devrait... dans pas trop de temps, mais je suis incapable de dire quand précisément, en ligne, sur quelque chose comme YouTube ou Vimeo, voilà. Donc vous aurez la soirée complète. Et cette soirée était aussi dédiée à un ami proche qu'on avait en commun, qui s'appelait François Fourcade, qui était prof de management à l'ESCP Europe, et avec qui on avait fait un bon bout de chemin depuis une dizaine d'années, et qui est mort un mois après René. Donc, en même temps, cette soirée lui était dédiée également. Voilà.
Alors, notons aussi que parmi les ouvrages, je crois que c'est le dernier, alors il y a eu La joie d'être grand-père, mais il y a eu un ouvrage qui a été fait pour en finir avec le management efficace entre François Fourcade, René et Christian. Alors, je ne me rappelle plus l'éditeur. Enfin bon, vous trouverez. Vous trouverez cet ouvrage sur cette question-là. Hein, ouais, et qui correspond au travail. Alors, ici, on va y revenir sur. Je le pointe juste parce que ça. Alors, aujourd'hui, on essaie d'être dans une configuration un peu différente. On va rendre plutôt. Hommage au René Barbier, universitaire, épistémologue, et sa contribution aux sciences de l'éducation. Alors, Christian a parfaitement raison, c'est pas ce qui l'intéressait le plus à la fin, etc. Bon. Mais ça n'empêche que sa contribution dans la question, je pense au niveau épistémologique. Alors, on va pas faire ici... ce qui est uniquement du rapport avec la personne dont ceux qui l'ont connu montrent qu'il y a eu un attachement, un ami, enfin, c'est pour dire les choses, une sacrée personnalité, quoi. Donc, c'est pas trop l'idée de la journée de centrer là-dessus sur des dimensions créatives ou poétiques, mais plutôt d'essayer de voir en termes de la. Dans les contributions qui a pu avoir à l'éducation et aux sciences de l'éducation, quelles sont-elles ? Alors, ceux qui n'ont pas eu le programme de la journée, en gros, il y a plusieurs parties. Ce matin, on va rester autour de la recherche-action, qu'il faudrait dire existentielle, parce que quand on regarde, c'est un peu ça qui le définit. Dans plusieurs niveaux, l'institution éducative, la formation existentielle des adultes avec le BUFA, l'enseignement à distance avec l'IED, mais pas seulement, et puis la question du management aussi. Et ensuite, on va aller sur quelque chose d'assez logique par rapport à ça, qui est plutôt qui correspond au titre de son HDR et puis de son ouvrage qui est l'approche transversale, hein, l'écoute sensible dans les sciences humaines, avec les différentes dimensions, la multiréférentialité élargie à la suite d'Arduino, la question du mythopoétique. Et là, donc, alors, l'idée, là, par exemple, sur ces questions-là, certains, quand quelqu'un a quelque chose à dire, on va essayer, comme on le fait là, sur un mode de la conversation et du cercle d'études, hein, de dire les choses sans que ce soit trop long. Si c'est trop long, je serais amené à dire, bon, bah, maintenant, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur la même question. Donc, essayez d'aller tout de suite dans ce que vous avez à dire et aussi de vous présenter par la même occasion en disant d'où vous parlez, hein. Et également la pensée orientale, la Chine, la question interculturelle. Enfin, vous voyez, là, il se tient par exemple un colloque sur les épistémologies des Suds. Et je relisais pour la journée là, c'était déjà cette question d'épistémologie du Sud, c'était déjà dans le bouquin de la recherche-action de René Barbier, etc. Bon. Donc, c'est des questions comme ça. Et cet après-midi, on va être sur l'apport sur l'éco-formation ça va être Eric qui va animer avec Odile si elle vient.
Elle va arriver.
Et puis Florent Pasquier, ici présent, sur les dimensions spirituelles de l'éducation, hein, et toute la recherche de spiritualité laïque. Et puis bon, il y aura d'autres. Alors, il n'est pas prévu, il n'est pas prévu d'intervention formelle sur telle et telle chose. Donc, même si vous ne connaissez pas et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à arriver avec vos questions, etc. Et qu'on ait un échange.
Je peux rajouter quelque chose. Philippe Nicolas m'a dit qu'il viendrait avec Lou cet après-midi pour 15h10, comme lieu pour elle, donc la petite fille de René, pour qu'elle se rende compte un peu de l'impact que son grand-père a pu avoir et toute cette dynamique, cette force de mouvement qu'il a fédéré et mis en œuvre tout au long de sa carrière. Voilà, je ne sais pas si tu étais au courant, donc il m'a confirmé hier.
Non, je ne suis pas au courant, mais c'est parfait. Voilà.
Elle doit avoir,
cinq ans.
Plus, non. Oui, peut-être dans ces eaux-là. C'est une très très jeune fille, en tout cas. Tu dois savoir, Christian, quel âge a Lou maintenant? Oui, voilà, j'aurais dit plutôt ça, oui.
Il y a un livre qui lui est dédié, que Christian a fait avec René, qui est « La joie d'être grand-père ».
Voilà.
Alors, certains de ses ouvrages sont sur les tables, soit là ou ailleurs, etc. Alors, les prenez pas parce que c'est les ouvrages perso. Par contre, on va en parler sur les questions de la Chine ou la spiritualité et tout ça. Là c'est possible. Voilà. Bon, il y avait une demande, disons, institutionnelle de parole de Patrick Boumard. Et évidemment, elle trouve sa place ici, qui est tout à fait légitime. Alors, tu dis d'où tu parles et puis tu présentes.
Oui, j'avais demandé en tant que président de la FIRST de dire trois mots là, sur ce que René a représenté par rapport à la FIRST. Mais bon, d'une part, nous sommes deux co-présidents, donc après tout, c'est moi qui parle.
Mais si,
simplement
si,
parce que j'arrive de loin, mais toi, tu arrives encore plus loin. Et puis, j'ai bien compris ce que disait Jean-Louis, mais quand même, moi, je voudrais dire deux, trois mots personnels.
Monsieur le professeur, je vous en prie.
J'avais dit du mal de
mille, ça. Aujourd'hui,
ça ne dérange pas.
Non, pas du tout. C'est un plaisir.
Mais je voulais dire quand même deux ou trois mots personnels, parce que je dois en juin 1975, à Vincennes. Comme des monstres, c'est-à-dire Michel Legros, Georges Apassal, Jacques Arduino, et un petit jeune dont j'ai appris après que c'était son premier jury,
s'appelait Guy Berger, qui est toujours un petit jeune depuis 1975. Et donc, ces braves gens ont s'amusé à triturer. Et au bout d'un certain temps, il y a quelqu'un au fond de la salle qui dit « Vous allez arrêter de martyriser le candidat. » Je me retourne, je ne connaissais pas. Et c'était René Barbier. Et ça a été le début d'une vraie amitié. Ça a été mon... Par rapport à Paris-Ville, je suis passé d'une implication admirative à un ressentiment de personne à personne. Après, le hasard a fait qu'on a été voisins pendant presque 10 ans. On habitait à 100 mètres l'un de l'autre. Donc, on a été très, très proches pour des raisons comme ça pratiques. Et ensuite, en 81, quand Vincennes est venu ici, c'est lui qui m'a fait rentrer dans l'équipe enseignante du DEA. Et donc, c'est le début de ma carrière universitaire. Sur ces deux étapes très symboliques, je les vois largement remis. Donc, je tenais à dire ça, même si ça fait un peu confidence personnelle, mais c'est quelque chose qui a été important pour moi, y compris dans les conséquences universitaires après. Et donc, voilà, je suis maintenant, après bien des aventures, devenu président de la FIRS, Association francophone internationale pour la recherche scientifique en éducation. En tant que président, je succède au toujours jeune Guy Berger, qui fait partie plus des fondateurs, et donc je pense qu'il pourra dire des choses historiques plus précises que moi.
On succède à Marmos, surtout.
Il succède, oui. C'est un régime historique. C'est très régime. Et quant à aux thèmes qui m'ont marqué, tel que René les a apportés, à vrai dire, il n'y a rien d'original. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été écrit. Moi, quand je l'ai connu un petit peu plus, il était à l'unité de Saint-Denis, il n'avait pas encore son poste ici. Et déjà, il y avait un groupe qui travaillait sur la recherche-action. Donc lui, disons, la recherche-action, l'institution. C'est les premières images que j'ai de ce DEA de l'époque où il y avait Louvreau, Vigarello, etc. Et après, quand René s'est, pour moi, démarqué, a pris une stature spécifique avec le développement de la recherche-action existentielle. Et là, il s'est démarqué, je dirais, de tous les débats qu'il y avait sur recherche-action versus recherche fondamentale ou recherche avec de l'action versus action sans recherche. Et donc, il a... Dans ma représentation, développer là quelque chose d'une vraie doctrine autonome. Et sa relation avec la FIRS a été forte tout de suite. Je vais vite sur l'histoire, on s'en fout un peu. Mais bon, cette association de recherche scientifique en éducation, qui avait été lancée par Arduano, Amy Allaret et Guy Berger, a très vite centré sa spécificité sur la recherche épistémologique. Et là-dessus, dans cette perspective-là, René a une importance considérable, en particulier parce qu'il était, encore une fois dans mon souvenir, sans doute le plus proche des thèmes de Jacques Arduano et de Guy Berger, en particulier sur la notion de complexité, sur la multiréférentialité, sur la traversalité, enfin des mots que je, comme j'étais déjà plus à Paris, je ne comprenais pas très bien. Et j'ai tout à fait conscience qu'il y a eu un approfondissement de la réflexion épistémologique extrêmement importante pour les sciences de l'éducation, dont on peut déplorer d'ailleurs qu'aujourd'hui ce soit un peu moins à l'avant-scène. Dont René Barbier a été un des éléments les plus dynamiques. Et puis après, il y a ce que je dirais la dernière étape, qu'apparemment vous connaissez mieux que moi, vu que j'étais resté ami, mais bon, j'étais au fin fond de ma Bretagne, donc je venais peu à Paris et j'avais assez peu l'occasion de le voir sur les dernières années. Il me semble qu'il avait pris par rapport à la FIRS un statut de sage qu'on respecte Et la dernière fois que je l'ai vu, Escalité en tout cas, c'était un colloque à Montréal, il y a 6 ans, je crois, 5 ou 6 ans, où il était venu présenter justement toute cette thématique-là de sagesse orientale, qui était par rapport à la première rationalité de la FIRS, assez éloignée, mais j'ai l'impression, et là, pareil, peut-être que je me trompe parce que j'avais un peu perdu de vue, il avait un certain plaisir à assumer cette dimension de marge, y compris par rapport aux réflexions épistémologiques que développait la FIRS. Bon, tu t'as dit qu'il ne fallait pas parler trop longtemps, je m'en tiens là.
Tout à fait. Alors, il y a peut-être qu'un élément biographique qui est important de rappeler aussi, tout le monde ne le sait pas, c'est que c'est quelqu'un qui il était déjà titulaire d'un DEA ou d'un diplôme d'études Bac plus 5 de l'Institut des sciences sociales du travail de la Sorbonne, et il choisit d'être un des premiers à s'inscrire à Paris 8 en commençant de nouveau première année de licence. Hein, ce qui est assez, quand même, qui marque une volonté. Actuellement, c'est pas tout le monde qui dirait « Tiens, je recommence les études à zéro en sociologie qui commence, et puis aussi en sciences de l'éducation. » À l'époque, on pouvait aller donner la parole à Guy Berger, qui est qui est dans l'équipe, qui est fondatrice de Paris 8. Hein. Non, mais c'est vrai.
J'en ai marre d'être fondateur de tout, enfin. Je me sens écrasé.
C'est la mémoire.
Alors, qu'est-ce qui a pu faire que... René, il était très fier de montrer sa carte d'étudiant, parce que je crois qu'il avait le numéro 69, un truc comme ça. Et il est les premiers à s'inscrire à Paris 8, de courir pour être dans les premiers qui s'inscrivent. Alors, pourquoi, à ton avis?
Bon, moi, non, j'aime autant te dire, au fond, comment j'ai rencontré René. Effectivement, je suis à Vincennes depuis les débuts, puisque dès le mois d'août 68, je fais partie des équipes qui vont préparer l'université, tant sur le plan architectural et matériel que sur le plan des recrutements. Et mais en 72, donc 2 ans après l'entrée, j'abandonne Paris 8 pendant quelque temps. C'est-à-dire que je participe à un projet UNESCO en Hongrie, pour des raisons d'ailleurs personnelles, parce que je suis d'origine hongroise, ça me donne l'occasion de découvrir d'abord quelques reliquats de ma famille qui ne sont pas morts encore en déportation. Et je découvre donc René seulement en 1974, quand je reviens à Paris 8. Et mon impression de René, c'est de rencontrer quelqu'un, au fond d'abord, qui est spiritualiste. C'est-à-dire, on est à cette époque-là, ou bien positiviste, j'en suis parti, ou bien révolutionnaire. René, il est sans doute profondément révolutionnaire, mais il est très profondément quelqu'un, finalement, qui ne pense qu'esprit. Je dirais même, c'est un amoureux du genre humain, au point que pendant les premiers mois, quand je le rencontre, je suis convaincu qu'il est militant chrétien. Mais d'une façon, en fait, simplement, il ressemble tellement à ce que j'ai connu, y compris, en fait, dans des militants type Jacques Choc, etc., que réellement j'en suis presque convaincu. Et donc, en même temps, je le découvre, et du coup, il me bouscule énormément. Je suis moi-même, en fait, à cette époque-là, relativement rationaliste, pas positiviste, mais rationaliste. En fait, j'ai travaillé sur le concept de système, je travaille sur l'évaluation. Et René me bouscule, au fond, par son approche des réalités, au point qu'effectivement, quand on constitue au fond les premières équipes qui ne sont pas encore des équipes, on n'a pas encore d'ailleurs la formule du DEA qui va apparaître qu'en 76 d'encadrement de futurs thésards, immédiatement je travaille avec lui avant même de travailler avec Arnaudot. Hein, parce qu'il est, il est par certains côtés mon contraire, mais un contraire qui me stimule, qui me dérange, et mais par conséquent avec qui j'aime travailler. Et alors, ça me permet de revenir sur deux remarques de... Il me manque. De Patrick, qu'effectivement, le premier objet sur lequel on travaille ensemble, c'est la notion, effectivement, de recherche-action. Et on y travaille d'autant plus que dès 70, enfin, dès que le département est créé, la première chose qu'on fait avec De Beauvais, c'est de convoquer une réunion, je n'ose pas dire un colloque, dans lequel il y a quelques chercheurs et il y a des praticiens, pour essayer de voir finalement qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. Et d'ailleurs, tout de suite, on découvre un certain nombre d'obstacles. Parmi ces praticiens, il y a des instituteurs. Comme des couillons que nous sommes, on a fait un colloque qui doit durer en fait le vendredi et le samedi. Et les instituts nous disent on ne peut pas venir, sauf si vous nous faites des mots d'absence. Enfin, je joue un peu sur les mots, adressés à nos inspecteurs pour qu'ils nous autorisent au moins à venir le samedi matin. À ce moment-là, les instituts travaillent aussi le samedi matin. Et autrement dit, on se rend compte que le premier problème au fond du rapport chercheur et praticien, c'est finalement un rapport hiérarchique. On est, du fait qu'on est universitaire, du côté de l'administration, on peut demander à un inspecteur qui libère un de ses enseignants et que donc, la notion de recherche pratique, c'est d'abord une mise en cause d'un rapport hiérarchique, d'un rapport de dépendance, d'un rapport déséquilibré. D'où, tout de suite, en fait, je dirais, un travail qui s'engage là-dessus. Et première, enfin, je dirais, premier rapport extrêmement profond, je crois, de René, c'est de dire la recherche-action, c'est pas simplement, en fait, une situation où deux compétences se confrontent et s'articulent, la compétence du chercheur et de sa distanciation de ses savoirs et la compétence du praticien, c'est aussi un engagement personnel qui met en cause des modes de vie, qui met en cause des modes d'être, qui met en cause, j'allais dire, j'ai même des rapports au temps qui sont différents. Le chercheur, c'est quelqu'un, par définition, qui a tout son temps. Hein, on n'est pas encore d'ailleurs aux thèses en 3 ans, etc. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est maître de son quotidien. Le praticien est quelqu'un dont le quotidien est complètement bouffé par des obligations. Et comment on inscrit de la liberté dans des obligations, c'est difficile. Et on arrive à cette idée, finalement, que la chasse-action, c'est une autre manière d'exister. Et ça confronte le chercheur à cette temporalité quotidienne du praticien, et ça confronte le praticien, finalement, à sa nécessité d'un autre rapport à la temporalité, et on a tout de suite, en fait, un certain nombre de discussions, et je crois que, à la fois, le premier lieu de rencontre, c'est la recherche-action, et l'apport majeur, en fait, de René immédiatement, c'est de dire, en fait, tant qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça change à la vie des uns et des autres, à leur mode, à leur rapport à l'existence, en réalité, on va, si simplement on se confronte en disant qu'est-ce que chacun apporte en termes de savoir, de pratique, de trucs personnels, on n'y comprendra rien. Et je crois que, dans un deuxième temps, nous travaillons, alors, je dirais presque René et moi, directement avec Jacques Arduano, dont à cette époque-là, un des thèmes majeurs et celui de la multiréférentialité. Et là encore, René va à la fois s'y inscrire de manière complète, et encore une fois, Patrick vient de le rappeler, mais en même temps, il va complètement, j'allais le bouleverser, avec la notion de transversalité. Au fond, la multiréférentialité, ça peut être encore, d'une certaine manière, au fond, successivement, d'adopter plusieurs regards, de parler plusieurs langues, de mettre en jeu plusieurs types d'épistémologie ou de problématiques. Mais ce que René précisément à cause de sa position existentielle, va introduire et bouger, c'est de montrer qu'on n'est pas simplement au fond dans un système additif, mais dans un système dans lequel chacun des éléments est transformé par la présence de l'autre. Si bien que par certains côtés, il n'est pas multiréférentiel au sens Arbano. Il y a Arbano, quelquefois, lui tombe dessus en disant qu'il ne comprend rien à rien. Puisque justement, au fond, c'est chaque élément devient en quelque sorte saturé par les autres éléments, chaque regard par les autres regards. Et de nouveau, c'est en assumant dans sa personne et dans sa vie cette multiplicité qu'on est capable de multiréférentialiser. Je dis ça parce que c'est le concept d'Arbano. Arbano n'enlève jamais sa cravate. Arbano est capable de penser révolution, mais il est gardé comme le bourgeois qu'il est. Il est à la fois très proche des étudiants, mais en même temps, il est toujours prof en face des étudiants, sachant en face des ignorants, et il maintient toutes les distances. Alors que René, finalement, à travers aussi bien l'aspect existentiel que l'aspect transversal, est quelqu'un qui détruit les frontières. Bon, je m'arrêterai là, enfin, en tout cas, c'est comme ça, au fond, que je découvre progressivement René, et je dis que René, moi, lui, m'a énormément appris. Il m'a vraiment bousculé, au fond, profondément, des positions qui étaient les miennes.
Alors là, je peux poser une question?
Ouais,
est-ce que, à ce moment-là, tu serais d'accord pour dire que René Barbier serait du côté de la transréférentialité et Arduano du côté de la multiréférentialité, et que cette transréférentialité, il n'y a que la personne singulière qui la bricole à sa façon, comme Nicolescu parle de la transdisciplinarité, qui est la question du sujet capable d'être traversé, de se transformer à chacune des traversées qu'il accueille?
Oui, à une condition. Hein. Bon, d'ailleurs, René lui-même, en fait, mais c'est un second temps, va entrer en contact avec tout un groupe qui travaille, au fond, sur la transdisciplinarité autour d'un personnage qui est à la fois physicien et philosophe, qui est Basarab Nicolescu, et va travailler beaucoup sur la transdisciplinarité, hein, souvent le mot de trans. Mais le mot de trans est ambigu. Parce que d'un côté, il peut signifier justement cette transversalité, cette traversée des concepts les uns par les autres, mais il est aussi quelquefois pris comme un élément dominant. Hein, par exemple, en 72, il y a un gros colloque qui porte sur l'interdisciplinarité, dans lequel il y a tout un ensemble de conférences sur la transdisciplinarité. Et ce qu'on appelle transdisciplinarité dans ce colloque, à travers les discours de Piaget d'un côté et de Lichnerowitz, qui est un prof de Collège de France de mathématiques d'autre part, c'est de dire, au fond, il y a des disciplines, des disciplines qui dominent toutes les autres et qu'on trouve partout. Et à cette époque-là, la notion de structure, on est à la fin du structuralisme, apparaît comme le transdisciplinaire. Et dans le transversal, il y a aussi quelquefois cette tentative. D'accord. Tandis que ce qui me paraît fondamental, alors chez la transréférentialité, c'est pas une référentialité.
À une transcendance, non.
C'est une traversée, c'est un passage, c'est une mobilité permanente.
Alors là, il y a peut-être quelque chose qui est important de capter aussi. C'est en fait, dans sa thèse, René Barbier. Là, on a aujourd'hui une focale par rapport à l'éducation, aux sciences de l'éducation. Mais en fait, sa thèse est une thèse de sociologie avec Jean-Claude Passeron, qui enseigne à Paris 8 à ce moment-là, vous voyez, qui est le collègue de Bourdieu, le Bourdieu Passeron, là, etc. Donc, on est là dans un certain type d'approche. Et qui est assez classique. Vous voyez, le métier de sociologue 68, c'est le chercheur doit être extérieur, doit pas se mêler, doit pas faire parler les gens, etc. Enfin, faut le relire actuellement. Hein, vous voyez, on est aux antipodes de ça. Et donc René fait une thèse dans le giron de la sociologie bourdieusienne. Et il fait une thèse sur une institution éducative dans laquelle il travaille, qui est l'IUT de Saint-Denis, qui est à côté, place du 8 mai, où il enseigne en gestion des entreprises et des administrations, où il est sociologue, etc. Et là, c'est en termes d'apport, alors c'est peut-être pas assez noté parce que après il est passé à autre chose, c'est quand même, il semble que ce soit la première thèse qui mette la recherche-action dans l'institution éducative, et qui est assez classique sur ses références. On n'est pas encore dans la multiréférentialité large, on est dans une sociologie des institutions, on est dans la sociologie du travail. Alors c'est croisé évidemment avec des approches de sciences de l'éducation, mais c'est quand même quelque chose qui va devenir après, qui va beaucoup s'étendre, c'est le fait... Alors il y a déjà eu avant des gens qui ont travaillé sur leur propre institution, mais finalement, c'est une monographie, une institution éducative dans laquelle il travaille, en reprenant à partir de Lewin les recherches-actions, etc. Et René a toujours eu le fait de ne pas s'arrêter, de mettre la main à la pâte dans les institutions, que ce soit celle où il est à l'IUT. Quand il vient à Paris 8, rapidement, il est chargé de cours et on voit qu'il bouscule. Il n'hésite pas à bousculer les théories, à créer des choses, etc. Il se situe dans la ligne d'Arduino et il va s'impliquer dans des institutions comme le DUFA, qui est au départ créé ici à la formation permanente et qui est le plus vieux diplôme de Paris 8 créé par quelqu'un qui s'appelle Maurice Krzyzewski, que après reprend Arduino et que après reprend René Barbier. Oui, donc il s'implique dans les institutions, il s'implique dans la création de cours à distance ici. Si on a de l'enseignement à distance ici, c'est en grande partie grâce à lui, à Christian Verrier, à Sonny Kim, etc. Donc il n'hésite pas, quoi. Une fois qu'il est à la retraite, il va à l'ESCP s'occuper de management, dans le CIRP avec François Fourcade. Donc là-dessus, on peut dire qu'il met les mains à la pâte dans l'institution. Ce que je remarque, c'est que souvent, l'idée qu'il a dans sa thèse, c'est de croiser aussi avec l'analyse institutionnelle. Et après, l'analyse institutionnelle fait une sorte de blackout sur René Barbier. C'est ce qu'il a dit, l'effet Ben Barka. Il n'apparaît même plus dans la galerie, là, vous voyez, bon. Alors que, finalement, cette idée de la recherche-action dans l'institution en étant soi-même membre, vous voyez, c'est après devenu une sorte de classique. Enfin bon. Alors, est-ce que d'autres qui ont l'expérience des institutions où René Barbier intervient et tout ça peuvent dire un peu soit leur témoignage, soit comment ils voient les choses, soit les spécificités de sa recherche-action, etc. Parce qu'ici, pour l'instant, oui, c'est surtout ceux-là qui en parlent. On va essayer que ce soit l'idée du cercle d'études. Ouais. Saïd.
Bonjour, merci de...
Alors, dis qui tu es, autrement je te présenterai.
Bah, je suis un ancien canal historique de Paris 8 et je suis actuellement professeur en État de Lorraine.
Et responsable du laboratoire de sciences de l'éducation.
Où ça ?
Et,
Lorraine.
Bah, moi, quand je suis venu à Paris 8, en réalité, j'ai
plus fort.
Un système
religieux. Parle plus fort.
Quand je suis venu à Paris 8 en tant qu'étudiant, j'avais fui un système autoritaire religieux et j'avais vécu ce que Paul Ricoeur disait, une expérience négative de mépris en tant qu'athée dans un système religieux. Et quand je suis arrivé, quand j'ai vu que René parlait de la spiritualité, pour moi, c'était au début un peu choquant. Pour dire que, mais on en a assez, René, s'il te plaît, parce que j'ai payé très cher cette spiritualité orientale. Et là où on a beaucoup discuté, on a continué à discuter jusqu'à la dernière minute, parce que on échangeait éventuellement pour la publication de quelque chose, parce qu'il me demandait de continuer à travailler cette approche un peu critique de la religion et l'intervention de la religion à l'école, et surtout la manière dont on fait en Moyen-Orient, c'est-à-dire en considérant que ça va de soi, par exemple, la présence de la religion à l'école et l'imposition d'un enseignement religieux à l'école à tous, quoi. Et là où il me disait, est-ce que tu continues encore à travailler, il y a un an à peu près, il m'avait envoyé un message avec Facebook pour dire, j'ai dit oui, je vais continuer, parce que comme ça c'est pas très reconnu en France, je publie tout en anglais, cette partie de mon CV est totalement... C'est Guy Berger qui m'a dit un jour, en France on déteste des gens qui bifurquent et qui font des choses différentes, il faut que tu sois centré sur un axe. Donc je travaille sur l'enseignement supérieur et en France je ne publie que sur ça, mais en anglais, si on parle de moi, c'est plutôt pour l'éducation et la religion, beaucoup plus que l'enseignement supérieur. C'est là où on a dialogué pendant une période pour se comprendre, et il me disait, mais moi j'accepte ce que tu dis parce que tu parles de la religion, les trois religions monothéistes, tandis que pour moi, ces religions sont des idéologies. Moi, plutôt, pour moi, la religion dont je parle, c'est une religion sans Dieu. Parce que dès que Dieu est là, finalement, les choses changent. Et le rapport à la spiritualité change. Et c'est là où, vraiment, il a joué un rôle dans ma façon de voir la religion et la spiritualité à l'école. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, progressivement, pour tout dire, pour dire que je suis devenu un peu plus tolérant vis-à-vis de la religion en général, parce que finalement cette dimension était réelle et importante, et il ne fallait pas partir de ses propres expériences négatives, mais plutôt des besoins de société également, et la place que la religion a. Donc sans changer cette religion, finalement, on ne peut pas changer peut-être la société non plus. C'est ça qui était très important dans notre débat, surtout dans le contexte Moyen-Orient, parce qu'on était en France dans un contexte où la laïcité est presque une religion, une laïcité très chaude, très rigide parfois, quand on discutait. Pour moi, au début, j'adorais cette laïcité, parce que je ne voyais pas la religion dans l'espace public, dans l'espace public, et ça pour moi, c'était un bonheur total, parce que ne pas voir la religion à côté de moi, partout, à l'école, dans l'administration, dans la rue et partout. Et là, on a pu dialoguer beaucoup ensemble, entre deux portes, dans les couloirs, en mangeant, rarement dans les moments officiels, parce que c'est un thème qui est un peu outsider en France. On en parle très peu.
Alors, ça va être cette question de la dimension spirituelle, ça va être dans la dernière partie de la journée, avec la discussion que va animer Florent. Il y a aussi des numéros là de pratiques de formation sur la question des spiritualités. Tout ça. Donc, je vous propose plutôt de, parce que comme ça va être, vous voyez, le débat, il y a quand même une sorte de, un peu de canevas des thématiques. Hein, qu'on reste de voir, soit à partir de vos témoignages, soit de vos interrogations, soit de vos apports à vous, sur René dans les institutions, quoi, les institutions éducatives. Hein. Ouais.
Je peux ajouter d'autres choses. Alors, déjà, c'est difficile, à mon avis, de séparer tous les aspects du travail professionnel de René Barbier. Oui, excusez-moi, je suis Giusie Lumare. J'étais la dernière doctorante de René Barbier, de sa carrière. Ouais, c'était juste la dernière. Et donc, je vais juste intervenir sur ce qu'on a demandé, parce que je pense que je passerai une entière journée, mais ça ne suffirait pas pour parler de René et ce qui a été dans ma vie. Donc, j'évite maintenant. Peut-être après, si on veut échanger sur ça. Et parce que le temps ne suffirait pas, vraiment. Par rapport à ce qui a apporté de nouveau René, hein, la nouveauté, c'était vraiment de briser les murs de certains tabous institutionnelle. Il a, par la proposition d'un nouveau dispositif qui a été la recherche action existentielle, il est rentré grâce aussi à toute la foulée de l'analyse institutionnelle, parce qu'on ne peut même pas séparer René Barbier de tout l'entourage qui avait fait qui avait créé Paris 8 et Georges Lapassade. D'un côté, il y avait les sociologues, Bourdieu, il y avait Lapassade qui avait déjà commencé à mettre en discussion par l'observation des dynamiques de l'institution, mettre en discussion certaines autorités. Mais on ne peut pas séparer tout ça de le côté spirituel, si on veut parler de spiritualité, mais c'est faux parler de spiritualité quand on parle de Jiddu Krishnamurti, parce que lui, il était sa référence pas spirituelle, mais vraiment d'interprétation de la réalité pour René Barbier. Son repère théorique, mais son repère existentiel était Jiddu Krishnamurti. Donc, je parle de Georges Lapassade et de Jiddu Krishnamurti qui n'ont rien à faire entre eux, mais ce sont les repères de René, en fait, les repères principaux. Et Jiddu Krishnamurti était quelqu'un qui avait mis en discussion l'autorité en tant que telle. Donc, si on veut passer de la mise en discussion de l'autorité à l'analyse institutionnelle et à la recherche-action existentielle, hein, c'est tout un fil qui lie son histoire professionnelle et intellectuelle. Et la recherche-action existentielle était vraiment la manière de briser les murs de l'institution, parce que la recherche-action, en tant que dispositif, il était un dispositif révolutionnaire, bien sûr, mais à l'époque, aux années 20, du 20e siècle, 1920, à peu près, et quand elle est née. Mais à un moment donné, elle est devenue un dispositif, un instrument de l'institution même. On peut voir ce qui s'est passé en Italie par la recherche-action dans l'institution éducative. Elle a été utilisée pour analyser l'institution par l'institution. Ce n'était pas l'analyse institutionnelle qui avait porté à l'utilisation de ces dispositifs. Donc, par la recherche-action existentielle, il apporte un nouveau... Il fait une rupture, il agit une rupture, où on a besoin d'impliquer les membres d'un chercheur collectif. C'est très important, l'implication, en tant que terme central dans la recherche-action existentielle. On ne peut pas s'en passer de ça. Donc il y a le terme de la complexité. Moi, je me souviens bien d'une intervention à Patrick Boumard qu'il avait hypothisé la complexité et l'implication dans les termes d'implexité. Le terme d'implexité, et c'est très proche à tout ce qui était dans l'action de René, dans la recherche-action existentielle. C'est le fait qu'il soit existentiel qui crée une rupture avec l'utilisation de la recherche-action par l'institution. Moi, j'ai fait l'expérience plusieurs fois de la difficulté d'agir par la recherche-action existentielle dans des collectifs, dans des groupes, parce que c'est révolutionnaire, ça ne peut pas être vraiment mis en acte facilement. Il faut des gens qui soient vraiment très très impliqués dans la thématique vécue par les milieux du travail où on met en place la recherche-action. Donc c'est vraiment une action très forte, c'est celle d'analyser la recherche-action existentielle. Après, il y a la recherche-action transdisciplinaire qui était le dernier pas de René vers vraiment une ouverture encore plus avec des horizons encore plus inconnus, parce qu'on ne sait pas où on va aboutir avec une recherche-action transpersonnelle. Mais déjà, la recherche-action existentielle était vraiment un pilier révolutionnaire de l'action de René. Voilà. Moi, je m'arrête là parce que peut-être après, on va...
Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que René et la pensée de René, elle évolue suivant non seulement lui, sa vie, ses questionnements, etc., mais elle évolue aussi parce qu'il y a des mondes dans lesquels il est impliqué, il y a des époques, etc. Les années 70 à Paris 8, par exemple en sciences de l'éducation où il enseigne, etc., là-dessus aussi ça bouge. Oui. Ça bouge du côté de. Et là, on voit que lui n'hésite pas d'être dans des différents types de ruptures ou de mélanger des dimensions qui ne sont pas habituellement mélangées. Et la question qu'on pourrait se poser, alors moi, je n'ai pas fait un recensement de ce qui se passe dans les recherches-actions à l'heure actuelle, mais j'ai l'impression que cette dimension-là n'apparaît plus directement comme. Cette conception-là comme très remarquable. Hein. On parle plutôt d'un point de vue assez fonctionnel de la recherche-action. Alors, s'il y a des gens qui ont mis en œuvre des choses sur la recherche-action, ou tout ça, qui veulent témoigner, vous avez la parole.
Ouais. Bon, je ne veux pas trop parler. Dans ce qu'on a dit jusqu'à présent, hein, il y a un truc, je crois qu'il y a deux, trois éléments qui sont importants. Bon, d'une part, le fait que quand on parle d'implication, et c'est toujours très ambigu, on ne parle pas d'engagement. Jusque-là, au fond, même quand on parlait de recherche-action, ça voulait dire, au fond, qu'un chercheur, c'est quelqu'un qui est aussi un acteur social, qui a des idées politiques, et qui, par conséquent, s'engage dans une transformation du monde. Le mot d'implication... Ça signifie qu'on est plié dedans, hein, qu'on est mis dedans, qu'on fait partie du monde qu'on cherche à analyser. Et j'ai employé un terme peut-être un peu choquant, qu'on joue avec. Hein. L'auteur que René Barbier cite le plus souvent, avant même qu'il ait découvert Krishnamurti, avant finalement certains engagements sur la multiréférentialité, c'est un philosophe grec d'avant 68, si je peux dire, qui s'appelle Kostas Axelos, et dont l'œuvre majeure s'appelle Le jeu du monde. Et je crois que c'est un auteur que René cite beaucoup. D'ailleurs, c'est intéressant qu'Axelos a deux thématiques de travail. Le jeu du monde, et la façon dont l'homme se situe dans un jeu, c'est-à-dire dans des interactions, dans des choses qui agissent les unes sur les autres, hein. Mais finalement, dont on ne sait pas à quoi elles conduisent. Il ne s'agit pas de... Le jeu du monde, au fond, c'est les interactions sans but, sans pré-finalité assumée, dans lesquelles on va se glisser et vivre. Et Axelos travaille aussi beaucoup sur la place de la technique. La technique étant une façon de jouer avec le monde pour le conduire quelque part. C'est une prise de pouvoir sur le jeu du monde. La technique, c'est une façon de s'emparer des lois de la physique, des lois d'économie, des lois de la psychologie, de la psychosociologie, pour transformer en système volontaire ce qui est en réalité un jeu avec une finalité sans fin, aurait dit Kant, c'est-à-dire qui est plus de l'ordre de l'œuvre d'art de l'action politique. Et ça fait de René quelqu'un de tout à fait particulier, qui est à la fois un militant, mais le militant d'aucune cause. Il n'est pas le militant de quelque chose. Hein. L'engagement, justement, qui est très souvent confondu avec l'implication, c'est à la fois une activité volontariste et rationaliste. L'implication implique une certaine attitude, je dirais presque contemplative, par certains côtés, à l'égard du jeu du monde, mais d'une contemplation qui ne se tient pas dehors, qui est une contemplation du dedans, hein, et dans laquelle à la fois on se laisse balloter, on se laisse prendre, et en même temps on y est, on est manipulé, manipulateur en même temps, etc. Et je pense que c'est très important qu'on voit ça au fond, et c'est en ce sens effectivement que sa conception de la recherche-action est très différente en fait de ce qui s'institue simultanément en fait, justement à travers un militantisme volontariste, etc. Enfin, j'avais envie de parler de ça aussi, parce que je pense que cette référence à Axelos est très, très importante pour comprendre René.
Alors, peut-être serait intéressant de voir aussi les témoignages de ceux qui sont passés dans des institutions où René Barbier a pu marquer. Je sais que moi, j'ai été son étudiant dans les années 75, 76, etc. Et c'était quand même un sacré choc, parce que le type de cours, c'était des un peu comme des performances. Il y avait parfois des dimensions très théoriques, il y avait des invités, on faisait parfois des mises en situation corporelle avec des créations corporelles, etc. Enfin, vous voyez, ça décoiffait, quoi, par rapport à ce que et tout ça, c'était mélangé dans une sorte de mélange qu'on retrouve pas si facilement, où il était tout d'un coup dans des improvisations poétiques, il invitait à créer, demandait de tenir un journal. Ça, c'était dès les années 70. Alors, peut-être serait intéressant de voir dans René Barbier et l'institution, de voir les institutions, non pas où il a fait de la recherche action, mais où il est, où il était engagé, hein, où il était metteur en scène. Hein, Giusy on subodore que René Barbier, directeur de thèse, c'était aussi un certain type d'institution.
C'était une belle expérience pédagogique, grande expérience pédagogique. Ouais.
Je ne sais pas combien de thèses, probablement une quinzaine. On a dû faire le relevé. Il doit y avoir une quinzaine de thèses, dont plusieurs ont été primées. Hein. La thèse de Christian sur sa modestie l'empêche de le dire, donc je l'ai dit, du prix de la formation professionnelle. La thèse de Geneviève Tardieu qui a été primée pour le prix René Raymond à Nanterre sur l'université populaire à TD Carmonde, etc. Enfin, oui, c'est quand même des choses qui ont marqué de ce point de vue-là. Donc, alors, par rapport à l'institution, moi j'aimerais avoir aussi des témoignages de ceux qui sont par rapport à l'institution BUFA. Parce que je vous dis, ceux qui travaillent ici qui sont maintenant les ingénieurs de formation, qui vont vendre sur les salons les formations de Paris 8, tout le monde leur parle du BUFA. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer où il prend la succession de Jacques Ardoineau? Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent voir un peu, qui veulent soit témoigner, soit essayer de repérer qu'est-ce que ça veut dire que René Barbier... finalement responsable du BUFA.
Et c'est vrai qu'avec le recul de quelques années, c'est vrai que moi aujourd'hui je travaille dans le milieu de la formation et c'est avec le recul que j'ai pris conscience en fait de l'expérience pédagogique en fait du BUFA et de cette posture qu'avait René Barbier. Dans la manière de gérer les groupes, d'intervenir quand tout le groupe, parce que le BUFA c'était beaucoup l'éprouvé du groupe et la mise en situation, enfin d'expérience. Donc voilà, on pleurait, on criait, enfin on était dans des états un peu particuliers. Et René Barbier, je me souviens encore une fois où tout le monde était en crise, moi-même j'étais en train de sortir de la salle, tout le monde s'énervait. Tout le monde cherchait le mauvais objet, le bon objet. Et lui, par exemple, il nous mettait en fin de cours une conférence sur Krishnamurti pendant une heure. Alors, dans un état émotionnel où je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui étaient capables de comprendre que Krishnamurti était en train de transmettre un message à ce moment-là. En tout cas, ça nous mettait en pause et ça nous poussait, ça nous invitait toujours à réfléchir sur l'expérience qu'on vivait. Et c'est vrai que après, moi, je parle avec d'autres personnes qui ont fait des DUFA ailleurs. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on parle d'engineering de formation, de comment le scénario pédagogique, d'objectifs pédagogiques. Et puis, je pense que ce que même moi, personnellement, a apporté le DUFA et rencontre avec l'approche pédagogique de René Barbier, c'est la question de la posture, en fait. C'est de la posture et de l'écoute du groupe, de l'écoute des interactions, toujours dans une dimension contextuelle, hein, institutionnelle, politique, etc. Mais qui a toujours cette sensibilité à avoir et ce qui fait un bon intervenant, un bon formateur, c'est justement cette souplesse. Enfin, moi, c'est par rapport à l'approche transversale, ce qui est tout ça, cette souplesse à avoir dans les approches, dans la manière de voir et les organisations et les institutions et les relations humaines. Et donc, du coup, tout ça lié avec la multiférentialité d'Arduano, c'est fait qu'au fur et à mesure au fur et à mesure du temps, et je valorise de plus en plus tous ces enseignements, ces rencontres, et que c'est vraiment ce du fait de dimension existentielle. Bah, il en faudrait beaucoup plus dans le monde actuel d'aujourd'hui, et c'est ça qui se perd un peu aujourd'hui, quoi. On est dans le monde de l'engineering et qu'on perd un peu le sens de sens de l'éducation. Donc c'est pour ça que moi, je suis très fière d'avoir rencontré toute l'équipe de Paris 8 à cette époque-là, et c'est un enseignement qui se continue aujourd'hui encore.
Merci. D'autres qui essayent d'avoir un regard par rapport à Yvette qui a continué avec le collège, avec Mehdi Farzad,
oui,
et le collège coopératif.
C'est vrai que René l'intervenu moins quand même les femmes, mais il reste très 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 présent. Hein. C'est, peut-être ce qu'on peut regretter, c'est que la vie même, l'existence même du femme ne soit pas reconsidéré, je pense qu'il serait là, il nous le dirait fortement, ne soit pas reconsidéré comme une recherche action en elle-même, c'est-à-dire que continuer à retravailler sur cette existence du DUFA, sur justement tous ces vécus différents en fonction de toutes les promotions, toutes ces interactions riches, moi je pense qu'il faudrait en faire effectivement une recherche action en elle-même. Je pense que René serait là, il y a longtemps qu'il nous aurait remis tout ça.
D'autres par rapport à des institutions où René était engagé, ça peut être l'enseignement à distance, Paris, le CERP, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un par rapport au CERP, au CIRP plutôt
Oui,
parce que c'est une école d'éducateurs de jeunes enfants. On en parlait hier, qui a ouvert le CERP.
À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre.
Est-ce qu'il y a d'autres qui sont passés par le CIRP, le réseau Chambre de commerce? Non. D'accord.
Mais d'abord sur l'enseignement en ligne, peut-être. Ouais. Un effet un peu chronologique, là. Bon, parce que ça a été en fait la création d'une sorte d'institution, à l'intérieur de l'institution, à la fois de Paris 8 et de l'IOD, qui est lui-même dans Paris 8. Et ça a été vraiment une aventure assez, assez extraordinaire. Il y a longtemps que René, en plus de tous les aspects qui ont été dits, il y en a sûrement d'autres encore, s'intéressait à l'informatique, au numérique. Hein, dès les années 96-97, bon, il est très branché numérique, en fait. Hein. Et ce qui arrive déjà, pour beaucoup d'étudiants de René, d'ailleurs, beaucoup de compagnons de route, c'était un peu un étonnement, quoi, avec l'aspect spiritualiste qu'on lui met sur le dos très, très souvent. Qu'est-ce que tu fais avec l'ordinateur? Il y a un problème. Il y a l'esprit dans l'ordinateur, peut-être, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est quelque chose qu'il avait énormément développé. Et puis en 2000, il y a eu l'idée, un peu conjointement, ensemble, à deux, de créer un premier enseignement en ligne dans la licence des sciences de l'éducation. Ici, il n'y avait pas d'enseignement à distance, hein. Je crois qu'il y avait quelque chose qui avait été fait il y a peut-être très longtemps, mais c'était la forme papier au moins, et en tout cas sur le numérique il n'y avait rien du tout. Et on était un peu novice, enfin moi j'étais totalement novice dans le numérique,
mais encore davantage novice pour ce qui est de la pédagogie en ligne. Ça, on n'y connaissait absolument rien. C'était pas tout à fait balbutiant à l'époque en général, mais c'était beaucoup moins fréquent qu'aujourd'hui, ça c'est évident. Et ça, c'était une aventure assez extraordinaire. On a appris mutuellement un tas de choses. Et puis, par un point de vue biographique, pour moi, c'était un moyen de rejoindre René. Quoi. Parce que moi, j'ai jamais été sur le spirituel, tout ça, j'y comprends rien. J'ai pas été sur poésie non plus. C'est pas mon truc. Et donc, la psychosociologie, ça, l'aspect psychosociologique qu'on retrouvait encore très fort dans le Dufa à l'époque, ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment marqué, mais les autres aspects beaucoup moins. Et là, il y avait un moyen de se rencontrer quoi, par le numérique et par la réflexion sur la pédagogie en ligne. Et ça a été vraiment ça, une recherche-action. Hein, une recherche-action existentielle un peu, je dirais pourquoi ensuite. Parce qu'on est monté dans le bateau à plusieurs, comme il fallait tout créer, qu'on n'avait rien, qu'on avait zéro franc, c'était encore du franc à l'époque, je pense, qu'on n'avait absolument rien, il a fallu tout construire, de A à Z, et avec deux personnes qui sont venues nous rejoindre, deux étudiants d'ailleurs, Son Mekin d'un côté et puis Florian Massieu de l'autre, qui nous ont vraiment aidés à penser la pédagogie en ligne, et non seulement à la penser, mais aussi à la réaliser sur le plan technique, parce que c'est pas simple. Et ensuite, sur le plan institutionnel, une fois qu'on a réussi à faire un peu d'entrisme dans la licence avec un cours, deux cours l'année d'après, quatre cours l'année d'après, cette fois on s'est dit, maintenant on va conquérir l'IED. Et René était tout à fait d'accord pour aller conquérir l'IED. Et pour des raisons institutionnelles, ça nous arrangeait bien par rapport au département des sciences de l'éducation. Il y avait en quelque sorte une protection qui s'établissait. Enfin, c'était un peu sournois, mais il valait mieux faire comme ça, je crois. Et alors, on a vécu des choses institutionnelles assez étonnantes. Et René était toujours partant dans l'affaire. Hein. On était occupé l'IED. On était occupé le bureau du directeur, enfin, parce que les choses n'allaient pas assez vite. Alors, ça faisait rajeunir René un peu, même s'il n'y avait pas un côté révolutionnaire au sens traditionnel du terme, comme Guy l'a dit tout à l'heure. C'était assez amusant. Et pour l'existentiel, que je devais évoquer, qu'il faut que je n'oublie pas, c'est qu'on a vécu ça un peu comme une recherche-action, donc à plusieurs, il fallait faire bouger quelque chose, transformer des choses, voire créer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Mais en plus, on essayait de mettre là-dedans une dimension existentielle entre nous-mêmes, parce que c'est un dispositif qui a bien marché, parce qu'en fait, on s'aimait dans ce groupe. On était quatre, mais on s'aimait bien, plus que ça, quoi. Il y avait vraiment des relations plus que fraternelles, quoi. C'était vraiment quelque chose de fantastique. Et sur le social, c'est très fort. Et d'autre part, vous avez parlé du DUFA, puis on a parlé, et on a essayé de transposer en ligne ce qui pouvait se vivre dans le DUFA de plus fort d'un point de vue existentiel. Hein? Alors comment on pouvait faire? Est-ce que c'était faisable? À demi faisable? Pas faisable du tout? Au bout de quelques années, on s'est dit, c'était à moitié faisable. Grosso modo, s'il y avait un bilan à tirer de cette petite recherche-action des premières années, c'était ça. Ensuite, la retraite arrivant, il y a eu le CIRP, donc, que tu évoquais, c'est le Centre d'innovation et de recherche en pédagogie de Paris, qui a été ouvert par l'intermédiaire de François Fourcade, que j'ai évoqué tout à l'heure au passage, qui a été ouvert auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de la ville de Paris. Au début, moi, je ne voulais pas y aller. J'ai fait des années sans vouloir y aller. Je suis fier du patronat, j'y vais pas. Pas question, je ne vais pas là-dedans. Et puis finalement, pris d'amitié pour François aussi. Je me suis dit, ils disent qu'ils ont besoin d'un coup de main, je vais y aller quand même. Quoi. Et finalement, c'était une belle aventure, puisque vous savez qu'à l'époque, la Chambre de commerce avait 21 écoles. Et dans ces 21 écoles, ce sont peut-être pas dans les 21, mais dans disons, une bonne dizaine d'écoles, on a pu instituer... sous l'égide de René en tant que conseiller scientifique et pédagogique, autant de recherche-action. Autant de recherche-action centrée sur autant que possible la recherche-action existentielle avec la dimension de sensibilité. Oublier la sensibilité quand on parle de l'approche transversale, la sensibilité en sciences humaines, c'est le sous-titre. Donc il y a quelque chose là qui était vraiment à travailler. Et ça, c'était une très belle expérience, un lieu de réflexion. Mensuel aussi, avec vraiment la création d'un chercheur collectif, au sens où la recherche-action le pense parfois, mais surtout au sens où la recherche-action existentielle le pense. Moi, je n'avais jamais vu ça exister, si quand même un peu du côté de Kopfsteiner, on l'avait vu, mais on était en groupe plus restreint. Hein. Mais c'était la même philosophie. Oui.
mais élargie, quoi. Et là, je pense que ça fait bouger pas mal de choses dans l'esprit d'enseignants de ces écoles, à l'époque, qui allaient du centre d'apprentissage à la haute école de commerce. Ça a vraiment été des bancs d'essai aussi assez extraordinaires pour beaucoup d'étudiants, d'anciens étudiants, qui sont venus travailler dans le CIRP. Il y a eu vraiment un ferment de quelque chose. Et aujourd'hui, bon, ben, cette affaire-là est terminée. La Chambre de commerce et d'industrie a coupé les vivres, juste avant d'ailleurs que René meure et que François meure aussi. Cependant, moi je signale, si un jour il y a des bonnes volontés, qu'il reste là un gisement inexploité, absolument extraordinaire. Il y a au moins 10 recherches actions avec 10 rapports de recherche conséquents, plus les films. Hein, si on mesure ça, chacune des recherches actions a été filmée quasiment de A à Z. Vous voyez, on a là une mine représentative de ce que peut être une recherche-action existentielle dans des écoles extrêmement diverses.
Il y a eu la thèse de Marlis Krzyzewski, oui, qui se présente un peu comme une thèse de gigogne, un peu comme une thèse d'HDR, malgré que ça n'en soit pas, avec des travaux, des descriptions, etc. Et puis le numéro aussi de la revue pratique de formation sur former les managers, où il y a notamment aussi une interview avec Henri Mintzberg, qui est un des grands gourous du management international.
Et si je peux juste ajouter une dernière chose, pour l'expérimentation au sein du CIRP, on a fait un film de fiction. On a fait un film de fiction qui reprenait tous les concepts qu'on développait dans le CIRP et qui ont été développés aussi ici à Paris 8, hein, sur le plan de l'éducation. Et on en a fait un film de fiction, quoi, qui raconte une histoire. Et c'est un film qu'on a tourné tu étais dedans, René est dedans, c'est pour ça que je le dis, d'autres aussi. On l'a tourné en 3 heures, quoi. On a fait 1h30 en 3 heures. Et si vous pouvez le voir sur YouTube, voilà, vous verrez René également dans le film qui joue un petit rôle. Mais Florian beaucoup plus, Florence beaucoup plus. Voilà. Ça s'appelle L'éducation s'en viendra au long des jardins. Vous voyez quand vous voulez. Sur YouTube.
Éric a un très bon rôle de figurant aussi.
Oui, je vois pas tout le monde.
Comment le nom du film ?
Le nom du film.
L'éducation s'en viendra au long des jardins.
Et si on doit mettre des publications sur ce qui a été décrit là, il y a le livre qui s'appelle « Le plaisir d'apprendre en ligne à l'université » chez De Bock, coordonné par Sunmi Kim et Christian Verrier, avec plusieurs qui ont écrit ici. Nicolas Fassin, toi, tu as écrit de l'UCP, il a écrit dedans. Donc, c'est ceux de l'équipe. Qui est-ce qui a écrit ? Saïd, tu as écrit dans cet ouvrage, Le plaisir d'apprendre en ligne à l'université ?
Oui.
Ouais. Qui encore parmi les gens ici ? Oui, et c'est assez remarquable parce que d'habitude, quand il y a une présentation pédagogique, souvent c'est. Il y a même aussi des étudiants qui ont fait part de leur.
Oui, on avait voulu à l'époque qu'il y ait des étudiants qui fassent des petits articles pour que ce ne soit pas uniquement des enseignants qui disent leur avis sur leur propre dispositif.
Mais c'est assez, en termes de pédagogie, c'est quand même assez exceptionnel qu'il y ait une équipe. Alors ça arrive, hein, il y a ce type de travaux. Qui prennent en charge, voyez, le fait de collectivement de faire un ouvrage où ils racontent de l'intérieur comment ça s'est fait, quoi. Et ça a été fait tout de suite dès la première ou la deuxième année de l'expérience de la licence en ligne. Et ensuite, Rémi, après que René soit parti, l'a transposé au niveau du master avec moi et l'équipe Experis. Avec quand même des types d'approches, vous voyez, où se combinaient le journal de recherche, journal d'itinérance, à la base, vous voyez, de la formation. Est-ce que certains d'entre vous qui sont passés par l'IED ici peuvent... oui.
Moi, je suis actuellement en M2 en sciences d'éducation à l'IED. Et j'y suis à l'IED depuis la L3, donc Saïd, je t'ai vu effectivement en cours, en séminaire. Et justement, je vois bien l'évolution en M2. Je me dis que si j'avais pas été en L3 à l'IED, je ne suis pas sûre que je serais à l'heure actuelle en M2, j'aurais poursuivi. L'importance de la base de la L3, avec notamment l'approche de la spiritualité laïque, était très importante pour moi dans ma reprise d'études. Voilà.
Oui, je reviens sur le DUFA. Je crois que, bon, parce que j'y ai participé, qu'avant même Arduino, on avait une première structure qui était une espèce de collection de modules séparés hein, qui ont précédé en fait la création du DUFA. Ce que je veux dire au fond, c'est que ça permet de prendre aussi une figure de René Barbier qui est en même temps une manière de comprendre sa relation avec l'analyse institutionnelle, plutôt avec le mouvement analyse institutionnelle. Il ne faut pas oublier au fond que le concept d'institution s'est construit, j'allais dire, sur une opposition, un peu comme en linguistique, entre organisation et institution. Et pratiquement, au fond, ça se traduit par des phénomènes, je vais me permettre de dire des choses à mes collègues, par certains côtés, quelqu'un comme Nougraud, qui a une espèce de vision tragique de ce qu'on appelle l'institutionnalisation, hein, qui voit dans le fait de passer d'institution à d'organisation une espèce de mort et de destruction, tient sans doute au fait que théoriquement, il n'est pas forcément très éloigné de l'anarchisme, et que chez quelqu'un comme Rémy Hesse, l'opposition organisation-institution le conduit à une sorte de spontanéisme généralisé. Hein. C'est le mouvement instituant qui compte, en fait. Et... Alors que, il ne faut pas l'oublier, ce couple, il faut le tenir ensemble. Hein. Le problème de construire un contraste, ça ne consiste pas à détruire un des termes, c'est faire fonctionner les deux. Il ne faut pas oublier que René est prof de gestion. C'est son métier avant de s'inscrire en sociologie. Et par là, d'ailleurs, ça c'est un autre couple qui apparaît dans le rapport avec Arduino. Arduino est un redoutable organisateur, tout en étant institutionnalisé aussi. Et René est lui aussi un organisateur. Et le DUFA, il faut l'organiser, il faut constituer une équipe, il faut faire un emploi du temps, il faut faire un programme, il faut avoir en fait une espèce... Et l'enseignement en ligne suppose de l'organisation. Il n'est pas pensable de travailler en ligne. Il ne suffit pas de dire qu'on va le faire, ça on l'institue. Il s'agit aussi d'organiser. Et René tient toujours ces deux éléments, d'où, à la fin de son parcours, un travail qui a étonné certains sur le management, qui n'est pas un retour en arrière, hein, qui est un retour sur finalement ce qui s'oublie hein, dans le mouvement institutionnel. Alors, au niveau des répartitions dans le département de sciences d'éducation, des gens comme Arduino et comme René ont toujours été vécus, se vivent comme dans le courant institutionnel, mais ne font absolument pas partie hein, de l'équipe analyse institutionnelle, qui justement est une institution sans organisation. Je crois qu'il y a un problème. Et alors, du coup aussi, René s'investit énormément dans le DUFA, parce que dans la répartition des pouvoirs, des tâches, des images dans le département de sciences d'éducation, je crois que chacun a besoin de son territoire. Hein, et le DUFA, hein, c'est la construction par René d'un territoire qui devient le sien, et dans lequel il peut tenir ensemble ce lien contrasté organisation-institution qui va continuer avec l'enseignement en ligne et qui définit aussi une manière d'être dans une université où on est dans une équipe, où on travaille avec d'autres, mais où on a besoin en fait de construire finalement des territoires qu'on peut investir existentiellement aussi.
Bonjour, juste résumer ce que Guy disait. Un jour, en prenant un café et en se référant au conflit au département par rapport, et je disais, ça m'étonne que les institutionnalistes font autant de guerres entre eux. Et il me disait que la même chose à peu près, il me disait, tu sais, il y a deux types d'institutionnalistes. Il y a des malades de l'institution à l'intérieur de l'institutionnalisme. Et il y a des gens qui ont une intelligence de l'institution, et il me donnait l'exemple de René et Jacques Arnaud comme des gens qui ont une intelligence de l'institution et qui peuvent comprendre et également transformer, mais sans être piégés par l'institution elle-même.
Par rapport à l'organisation de la journée, je vous propose qu'on fasse une pause, hein, et on va reprendre dans 10 minutes, oui, autour des questions de multiréférentialité, mythopoétique, approche transversale, etc. On a évidemment, on ne peut pas découper thématiquement, mais on va essayer de se centrer un peu plus là-dessus.